entendu, des confs à écouter, séminaires, faits didactiques et éducation à. Pour cette nouvelle saison des podcasts de l'INSPE de Lorraine, nous retrouvons le séminaire de recherche faits didactiques et éducation à. Cette année, la formation à l'esprit critique sera le fil rouge de toutes les conférences programmées. Nolwenn Tréhondard, maître de conférence en sciences de l'information à l'Université de Lorraine et membre du CREM, introduit cette première rencontre de l'année et présente les deux intervenants. Au programme, éduquer l'éducateur, les paradoxes de l'éducation aux médias et à l'information. La communication qui suit a été réalisée en visioconférence le 4 novembre 2020.
Donc bonjour et bienvenue à tous dans ce séminaire de recherche-formation qui s'appelle « Faits didactiques et éducation A » et qui a été créé par Sylvie Pierre, chercheuse au CREM, et que j'ai le plaisir de co-animer et co-organiser avec elle depuis cette année. Donc le séminaire réunit depuis 2015 des chercheurs du CREM, mais aussi d'autres laboratoires universitaires autour d'une thématique commune, les éducations A. Donc c'est un séminaire qui se tient au sein de l'INSPE de Lorraine et qui se veut un lieu de réflexion, d'échange et de formation sur les problématiques liées notamment aux pratiques médiatiques et informationnelles des jeunes à l'ère numérique. Il est ouvert à toutes et à tous, et notamment aux étudiants de l'INSPE qui souhaitent s'emparer de ces questions centrales aujourd'hui dans leur formation et dans celle de leurs jeunes apprenants citoyens. Donc cette année, le séminaire est articulé autour d'une question centrale, la formation à l'esprit critique. Et parmi les questions qui seront abordées pendant l'année, la lutte contre les fake news et les discours de haine, l'accompagnement des jeunes dans l'appréhension des images chocs, ou encore leur relation amicale et amoureuse à l'ère du numérique. Seront accueillis des chercheurs et des chercheuses reconnues qui sont spécialistes de l'éducation aux médias, tels que François Jost, Laurence Corroy, Alexandra Zemmer et Nicolas Hubé aujourd'hui. Et le séminaire donne aussi la parole aux doctorantes et aux doctorantes comme Isée Vauchez, qui intervient aux côtés de Nicolas Hubé cet après-midi. Alors, qui sont nos intervenants? Donc, une petite présentation avant de leur laisser la parole. Nicolas Hubé est professeur des universités en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lorraine. Il est membre du CREM et directeur de l'équipe Praximédia au sein du CREM. Il est également formateur à l'INSPE de Lorraine. Et ses thématiques de recherche tournent autour de la communication politique, de la sociologie politique comparée, France, Allemagne, Union européenne et également de la sociologie du journalisme. Isée Vauchez est doctorante en sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Alors, elle est chercheuse au Centre européen de sociologie et de sciences politiques et chercheuse associée également à l'INA. Elle est en troisième année de thèse déjà et travaille sur la construction des fake news comme problème public et les dispositifs développés par les institutions pour lutter contre ce problème. Leur intervention s'appelle « Éduquer l'éducateur, les paradoxes de l'éducation aux médias et à l'information ».
Merci Nolwenn, merci Sylvie pour cette invitation à présenter des recherches en cours et je suis ravi de faire cette présentation avec Isée. Alors c'est un peu, j'allais dire, délicat, ça fait très ancien monde de l'université parce que c'est le directeur de thèse et la doctorante qui travaille sous sa direction qui présente, donc ça fait très paternaliste, mais en fait la proposition qu'on vous a fait aujourd'hui, c'est plutôt le fruit de nos différents échanges et vous le remarquerez d'ailleurs, la parole sera sans doute parfois un peu plus du côté de disait que du mien. Alors pourquoi cette présentation? Alors j'ai oublié de mettre le joli PowerPoint. Pourquoi cette présentation? C'est, comme je viens de le dire aussi, le fruit d'un ensemble d'échanges, de discussions, de processus parallèles entre ce que d'un côté Isée voyait sur son terrain de thèse, et elle y reviendra, c'est-à-dire l'observation en classe média des dispositifs d'éducation média, et ce que je pouvais voir, moi, de mon côté, dans les cours que j'anime à l'INSPE sur les questions d'éducation média. Et ce qui était surtout très frappant, c'est que à mesure de ces échanges, ce que pouvait dire l'un avait quasiment immédiatement en écho cette phrase. Moi aussi, je l'ai observé comme ça. Tiens, c'est marrant, on aurait pu s'attendre à ce que ça se passe différemment, etc. etc. Donc on est, et le propos qu'on va faire à partir de cette proposition, c'est plutôt... Tu l'as dit, Nolwenn, essayer d'avoir une réflexion critique sur une pratique, celle de l'éducation aux médias, et de nous intéresser à ce qui se passe, à ce qui se fait dans ces classes médias, dans deux types de classe média, d'une part celle plus classiquement labellisée éducation nationale dans les lycées, ça va être beaucoup plus la partie observée par Isée, mais aussi de manière plus réflexive ce qu'on peut faire quand on fait l'éducation aux médias auprès des futurs enseignants de l'éducation nationale, d'où le titre éduquer l'éducateur. Et ce qu'il faut aussi immédiatement ajouter par là, c'est que, et la très forte, ce qui ressort de ces travaux, c'est à chaque fois le continuum, les continuités des publics. Et c'est là d'ailleurs un premier point d'étonnement, ou une première réflexion que l'on peut avoir, c'est que il n'y a pas de raison qu'un public lycéen soit fortement différent d'un public, il faudrait peut-être pas le dire comme ça au sein de cette institution, d'un public d'étudiants à l'INSPE. Et que on pense, et le débat public est très largement, j'allais dire, pollué par ces réflexions, et aujourd'hui encore plus, enfin depuis malheureusement ce qui s'est passé à Conflans-Sainte-Honorine, pollué par cette idée d'éduquer surtout les jeunes. Or, c'est souvent la mauvaise blague après une heure et demie de cours et de fatigue que je peux faire. Si Benjamin Griveaux avait eu l'éducation aux médias, il pourrait être maire de Paris, et qu'il n'y a pas de raison que l'éducation aux médias des mineurs soit différente ou soit pas moins ou plus importante que l'éducation aux médias des majeurs. Et que ce qui se joue dans la question de l'éducation aux médias, c'est beaucoup plus la question des pratiques médiatiques, des usages médiatiques ou des usages et mes usages médiatiques, et qu'il faut peut-être amorcer cette réflexion sur ces usages, et que l'éducation aux médias et à l'information, c'est quelque chose de plus large qui ne concerne pas que le public des jeunes. Donc, premier continuum, qu'est ce continuum, j'allais dire, des publics. Le deuxième continuum, c'est aussi le continuum des médias, qui est souvent un petit peu oublié. Tout se passe comme si le seul problème était le problème du numérique. Or, le Clémy n'a pas attendu l'éducation, n'a pas attendu les réseaux sociaux numériques pour exister en tant qu'institution et promouvoir cette éducation aux médias. Bien souvent, on fait comme si tout se jouait uniquement en ligne, avec un argument un peu compliqué, mais on reviendra dessus. Moi, j'ai un bon usage, le mauvais usage usage, c'est les autres. Et quand on pense usage, on pense uniquement réseaux sociaux numériques. On ne voit pas, on n'imagine pas et qu'il y a des choses qui s'appellent la télé, qu'il y a des choses qui s'appellent la presse écrite et qu'aller en ligne, on peut faire plein de choses en ligne. On peut aller aussi bien sur des sites complotistes que d'aller lire Le Monde. Et donc, ce n'est pas le en ligne qui pose problème, c'est plutôt les usages qui en sont faits. Donc, ces problèmes-là, continuité des publics comme continuité des pratiques et des médias, c'est un petit peu ce que l'on peut observer et que l'on va travailler aujourd'hui. Alors, on a décidé d'organiser notre propos en trois temps principaux. Le premier temps est de rappeler aussi ce contexte relativement flou de l'existence de l'EMI. Le deuxième point qui sera plus long, c'est de montrer que ce contexte flou est également très fortement lié à ce que c'est une discipline en lien avec le vécu personnel de l'enseignant, que c'est précisément pas une discipline au sens d'une matière, mais que c'est lié au vécu personnel de l'enseignant. Et troisièmement, on essaiera peut-être de réfléchir à des formes de modalités pédagogiques de dépassement de ce qu'on a pu appeler le paradoxe de l'éducation en médias. Alors, avant de rentrer dans le propos, également quelques rappels de ce que d'où je parle, et c'est pour mon cas, et puis Isée rappellera d'où elle parle, ou qui te parle, camarade, comme on disait dans d'autres lieux. Et pour moi, c'est toujours un peu complexe de à la fois faire court et de réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire ce qui se passe en cours en le faisant. Moi, les dispositifs d'éducation média dont je vais parler concernent un public d'étudiants du second degré, inscrits en MEF second degré, et je vois l'ensemble de la promotion du M2 PEPA, donc les à peu près 150 étudiants de toutes les disciplines. Toutes les disciplines enseignées à l'INSPE, donc ça peut aller aussi bien du prof doc en passant par le CPE au prof d'italien et aux EPS en passant par les maths. Et donc je les vois sur les deux sites aussi bien de Metz que de Nancy, donc j'ai un corpus de témoignages, de récits, de vie, d'énervement aussi de cours, ou d'étonnement de ce qui peut se passer devant moi en cours, de ces différents cours. Et mon enseignement se divise en trois temps, et c'est à chaque fois à partir de ces trois temps, ces trois séances que je fais devant chacun des groupes d'étudiants. C'est d'abord leur dire il faut comprendre l'usage et les pratiques de vos ados, qu'est-ce qu'ils font avec les médias. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut comprendre, lire, voir du côté de la théorie des complots, des rumeurs, et comment ça circule et comment on peut faire exister des rumeurs, comment des choses aussi aberrantes que la Terre est plate peuvent circuler et être crues. Et troisièmement, leur faire un module, mais ça on se refait pas. Melven rappelait que j'étais en sociologie du journalisme, et ça fait 20 ans que j'essaie de comprendre comment sont choisis, triés les sujets d'information. Et donc du coup, une troisième séance de décryptage de l'actualité sur le volet I de éducation de l'EMI. Voilà un peu le point d'où je parle.
Merci beaucoup. Vous m'entendez bien, ouais ? Ça va ?
Parfait. Oui.
Oui, okay. Oui, très bien.
Merci beaucoup, Nicolas. Merci surtout, Nolwenn et Sylvie. Je suis très contente de pouvoir présenter mes travaux, ce que je n'ai pas encore fait, en tout cas pas ces recherches-là. Alors, c'est des travaux qui sont en cours, comme vous le disiez. Peut-être que je peux préciser un peu que... Donc, effectivement, je fais une thèse sur la lutte contre les fake news, et, enfin, ce qu'on appelle fake news, en essayant de cartographier un peu l'ensemble des dispositifs d'action publique qui ont été développés, en gros, depuis 2015-2016, avec d'abord Charlie comme première charnière, et ensuite Trump-Brexit, les deux années où, après lesquelles vraiment se sont développées beaucoup, beaucoup de choses différentes, en essayant de voir un peu qu'est-ce qui lie d'un côté le fact-checking du côté journaliste, la loi anti-fake news du côté politique, les dispositifs d'éducation aux médias, donc là c'est la partie qui est là, voir les dispositifs aussi plus techniques développés par les plateformes, de modification des algorithmes, etc. Et donc j'essaie de faire le lien entre ces différents pôles, et en l'occurrence, là, du côté du pôle éducatif, du coup j'ai commencé par des entretiens, donc j'ai fait... C'est le matériau que je vais présenter là. J'ai fait une douzaine d'entretiens avec des professeurs engagés dans l'EMI à Paris. Plutôt des professeurs documentalistes, c'est la grande majorité des personnes que j'ai rencontrées. Dans une moindre mesure, des profs d'histoire ou alors des coordinateurs du CLEMI ou des personnes engagées dans une forme plus institutionnelle, et, pas directement face aux classes, quoi. Et j'ai doublé ces entretiens d'observation dans les classes médias, en essayant de faire varier un peu, d'abord collège-lycée, puisqu'en fait, on voit aussi que ce n'est pas du tout, évidemment, le même degré de contenu qui est développable avec des sixièmes ou avec des secondes, et aussi de faire varier les milieux sociaux de ces établissements pour voir aussi ce que faisait cette variable de l'origine sociale au type d'éducation aux médias développée. Donc, en gros, c'est des entretiens d'observation que j'ai surtout conduits l'année dernière, essentiellement jusqu'à ce qu'il soit plus trop possible de rentrer dans une salle de classe aussi facilement. Et voilà, peut-être je peux revenir d'abord un peu sur cette idée de l'existence compliquée de l'EMI. Je pense que c'est quelque chose que vous savez même beaucoup mieux que moi parmi les 66 personnes qui sont en train de m'écouter, mais... C'est une discipline qui est très particulière, qui a déjà comme première caractéristique de ne pas avoir d'existence institutionnelle au même titre que le français, les maths, etc. Ce qui va faire que déjà les parents ne la connaissent pas forcément, les chefs d'établissement ils ne sont pas forcément naturellement enclins ou portés, et donc elle n'est pas jugée naturellement nécessaire. Et du coup, avant 2015, il existait déjà l'éducation aux médias, mais elle était assez isolée, assez parcellaire. Et surtout, elle était très souvent confondue, alors, ou d'une part avec l'EMC, c'est-à-dire on pouvait évoquer des formes d'éducation aux médias dans l'éducation morale et civique, ou alors surtout, elle était confondue avec une éducation par les médias, c'est-à-dire des profs qui utilisent un support médiatique, un article de presse, pour approfondir un point de leur programme ou une notion, mais ce n'était pas spécifiquement une éducation aux médias. En l'occurrence, depuis 2015, l'EMI s'est vraiment développé au sein de l'éducation nationale et en dehors. Et au sein de l'éducation nationale, c'est vraiment la forme de la classe média qui est, je crois, la forme la plus aboutie de tentative d'institutionnalisation de cette discipline. Et ça, c'est le CLEMI, donc c'est le Centre de liaison à l'éducation aux médias et à l'information. C'est un organisme qui est rattaché à l'éducation nationale qui est proche du réseau Canopée, en gros, pour voir, qui a développé ce label. Là, on voit un peu le type de critères qu'ils essaient de développer, en essayant à la fois de viser très large dans les compétences et en même temps d'être très figé, donc en donnant des critères d'existence. Il faut que ce soit 2 heures par semaine, il faut que ce soit un binôme, donc il faut que ce soit forcément une professeure documentaliste, un autre prof. Généralement, c'est très, très majoritairement des profs d'histoire ou des profs de français. Il y a un socle de compétences, etc. Enfin, il y a eu tout un tas de tentatives pour figer ce label et essayer que ce soit de plus en plus reconnu et donc de plus en plus valorisé. Moi, je connais surtout la situation à Paris, mais de ce que je comprends, Le développement des classes médias s'est fait de manière très très différente d'une académie à l'autre. Il y a des académies qui sont encore en train de commencer à les créer. Quand à Paris, il en existe, assez très variable, mais disons plus d'une cinquantaine. Donc sur plusieurs centaines d'établissements, c'est quand même assez honorable. Pour autant, on peut tout de suite noter qu'il y a quand même des très grosses contraintes structurelles à l'existence de ces classes. La difficulté à récupérer des heures, d'abord, ce que mes enquêtés décrivent comme des conflits de DAG, de dotation horaire globale. Donc ça, je pense que ceux qui m'écoutent connaissent ça beaucoup mieux que moi, mais moi j'ai découvert aussi tout un tas de jargons de l'éducation nationale. L'idée de convaincre les collègues, qui n'était pas forcément évidente, puisque l'idée de convaincre le chef d'établissement, et plus généralement, créer un espace d'existence qui soit pérenne et qui permette non seulement d'ouvrir la classe, mais ensuite qu'elle existe d'une année à l'autre. Là, c'est un extrait d'entretien sur cette question-là, la prof doc qui se retrouve à aller motiver tout le monde, les chefs d'établissement, les collègues, les élèves et les parents, pour essayer de faire exister cette classe média. L'autre enjeu, c'est aussi que les classes médias ont beaucoup existé sous la forme d'enseignement d'exploration. C'était la majorité de la structure qu'elle prenait. Et avec la réforme du lycée, il y a 2 ans, les enseignements d'exploration ont été supprimés. Et par exemple, à Paris, la moitié des classes médias en lycée ont disparu cette année-là. Alors que pourtant, c'était une réforme du lycée qui invitait dans les textes à plus d'éducation aux médias, etc. Mais les contraintes institutionnelles en ont fait fermer pas mal. Et du coup, comme elles sont très difficilement, comme elles ont des difficultés d'existence dans leur structure, elles existent en fait. Elles reposent fondamentalement sur le volontariat individuel des profs et des profs doc, ce qui sont surtout des jeunes profs doc et très souvent des femmes qui se décrivent elles-mêmes comme la génération CAPES prof doc dépoussiérée. Et du coup, qui vont défendre ça vraiment sur un thème très militant, en défendant qu'elles le font par sentiment d'urgence, par prise de conscience sur la menace pour la démocratie, par volonté de faire de leurs élèves des citoyens éclairés, tous ces discours-là qui vont les motiver à le faire très souvent gratuitement parfois, ou en tout cas avec beaucoup d'heures sup non payées, et à se battre contre toutes les contraintes qui peuvent exister. Du coup, pour essayer de mettre en visibilité et de valoriser ces classes médias, elles vont se retrouver à développer des stratégies différentes, notamment, alors déjà pour les collègues enseignants, ça va être d'aller chercher tous les collègues un par un en essayant de les convaincre que c'est pas réservé aux profs doc et que tous les profs, tous les enseignants peuvent faire de l'éducation aux médias, d'essayer de trouver pour chacun des passerelles possibles en essayant d'aller les chercher un peu un par un et en leur mâchant le travail. Pour convaincre les élèves et surtout les parents, ça va être de valoriser l'inscription de l'éducation aux médias dans des stratégies scolaires, c'est-à-dire en fait clairement de montrer qu'il y a un intérêt pour le bac. Donc avec là la réforme, ça va être de dire que maintenant qu'il y a un module sciences politiques, que l'éducation aux médias, ça peut être un peu de la science politique et que donc ça peut les aider, ou de dire même que comme il y a un grand oral et que c'est un cours assez interactif, ça peut les aider à la prise de parole en public, ou des tas de petites astuces comme ça. Et enfin, pour ce qui est du chef d'établissement, l'argument, ça va être de dire que les classes médias font de meilleures classes en termes de niveau scolaire. Elles vont développer un argumentaire qui se rapproche de ce qu'on connaissait pour les classes de germanistes, ou les classes de latinistes, ou les classes d'une option type chinois ou autre, où en fait on trouve qu'il y a un meilleur niveau scolaire dans ces classes-là, dans ces classes à option, et que ça attire de meilleurs publics. Alors par meilleurs publics, c'est essentiellement les profs doc qui sont dans des collèges, dans des milieux très populaires, qui vont essayer d'attirer des publics plus favorisés du quartier par les classes médias. Concrètement, pour celles qui sont dans le 18e et dans le 19e arrondissement de Paris, elles le disent littéralement comme: il faut récupérer les bobos, et on récupère les bobos ou par une classe musique ou par une classe média, en fait. Voilà, ça c'est pour ce qui est du cadre un peu général.
Moi, je peux compléter sur ce point du côté du cadre général et c'est ce que je disais en introduction sur les formes de continuité de ce qui se joue, y compris dans une institution comme celle de l'INSPE, c'est que face au public de MEF second degré, donc encore une fois, j'ai la galaxie des différentes disciplines, mais lorsque j'arrive dans la première séance de cours, je suis face à deux types de réactions. La première réaction, c'est à quoi ça va me servir, et deuxièmement, je vois pas du tout l'intérêt de la chose. On voit pas du tout l'intérêt de la chose et à quoi ça va me servir, parce que c'est là aussi, et c'est une forme de ce que Goffman appellerait de retournement de stigmate, justement, c'est le truc de prof doc, ou à l'inverse, et c'est la première séance que j'ai faite à la pause, donc au bout d'une heure et demie, je vois arriver deux étudiantes préparant, voulant intégrer le CAPES Prof Doc, qui viennent me voir, me remerciant très chaudement de m'adresser à eux. Ou de m'adresser plutôt à elle. Et alors j'ai été à la fois satisfait parce que c'est toujours flatteur d'avoir des remerciements d'un étudiant, à l'inverse de râlage, mais j'étais en même temps très insatisfait puisque je ne voyais pas pourquoi ils ne voyaient pas l'intérêt de la chose. Alors on parle toujours d'où on est, j'ai compris la chose au bout du 4 ou 5e groupe que je voyais, et pour leur présenter la chose, il fallait le faire de manière très scolaire, c'est-à-dire, Isée parlait de ça permet de passer le bac et d'avoir des meilleures options. Là, c'était de leur dire, en fait, ça rentre dans votre socle de compétences. Regardez, c'est développer l'esprit critique et de modifier ma slide première ou seconde pour leur rappeler l'ensemble des textes appelant au développement de l'esprit critique tel que voulu par les injonctions ministérielles. Et donc là, du coup, j'avais un peu plus d'intérêt, mais je butais immédiatement derrière sur un deuxième aspect qui était, mais alors, quelle est la différence avec l'EMC ? Ce que disait également Isée, c'est ce qu'on voit sur ce type d'éducation A, c'est que chaque éducation A est un petit peu dans son coin et perçu et vécu comme en opposition aux autres, et que alors que les événements tragiques des dernières semaines nous rappellent que faire de l'éducation aux médias en EMC, les deux sont liés, mais c'était face à ce public étudiant quelque chose qui n'allait pas de soi, et ce qui n'allait pas de soi non plus, mais on retrouve les divisions entre disciplines, c'est que dans la gamme des bons élèves première classe qui prennent tout le temps la parole, c'était évidemment les profs doc, les profs d'histoire géo, quelques CPE, mais pas tous, et puis quelques profs de langue ou de français de ci, de là, et très loin derrière, où l'énorme majorité des autres percevant ça comme un cours par lequel il faut passer et ne voyant pas, voire marquant, une forme de désintérêt ou de dédain face à ce qui apparaît comme « il ne va pas nous dire comment je dois utiliser les médias, ça ne m'intéresse pas de savoir ce que font les ados avec leur smartphone, ils n'ont qu'à l'éteindre ». ce qui était une réponse un petit peu courte. Mais c'est aussi, la transition avec la partie suivante, c'est aussi que on est là peut-être plus que dans d'autres domaines disciplinaires sur un sujet sur lequel, mais ça c'est valable jusque auprès de collègues, d'éminents collègues de sciences politiques qui vous disent « j'ai pas besoin de travailler sur les médias, je lis Le Monde ». C'est-à-dire que c'est l'éducation aux médias et à l'information, c'est ce type de choses dont on n'a pas besoin de nous dire ce qu'il faut faire, puisque nous, un, on est éduqués, et deux, on fait un bon usage des médias. Et donc c'est cette deuxième partie sur une discipline liée au vécu personnel des enseignants.
Effectivement, en fait, pour continuer à avancer sur le paradoxe de l'EMI, effectivement, le problème, c'est que à ces blocages institutionnels s'ajoute une dimension très personnelle de l'EMI, en fait, qui va poser des problématiques individuelles aux professeurs qui voudraient qui serait intéressé, mais qui pourrait ne pas se sentir légitime. Et ça, c'est une expression, c'est quelque chose qui est souvent revenu dans les entretiens. Je suis pas légitime à éduquer aux médias. Alors, ça peut être ou bien du fait du rapport au numérique, et ça, on en reparlera, mais c'est vrai que comme beaucoup de profs associent dans leur esprit éducation aux médias et information et éducation au numérique, un prof un peu âgé peut ne dire, mais moi, j'y connais rien. Il peut ne pas pouvoir ou ne pas vouloir se mettre sur TikTok ou même savoir ce que c'est. Donc, il y a cette barrière-là de ne pas se sentir capable de maîtriser des outils et donc, a fortiori, d'éduquer les autres élèves, leurs élèves. Et il y a, plus généralement, l'extrait qui est là, une sorte de conscience d'avoir un rapport aux médias, d'avoir ce qu'on peut appeler un vécu médiatique, qui ne permettrait pas forcément de se positionner en figure d'autorité sur un sujet. C'est-à-dire, pour se positionner en figure d'autorité sur un sujet, ça leur semble possible en histoire, en français et en maths, parce qu'ils ont toute une série de codes et de règles qui leur permettent d'attester de connaissances sur le sujet. Mais ils ont cette idée que le rapport aux médias, finalement, c'est l'extrait qui est là, la prof doc qui me dit je suis pas sociologue, et je lui dis en fait, même les sociologues, en fait, personne ne peut se targuer d'avoir un rapport parfait, parfaitement pensé, parfaitement rationnel et parfaitement structuré aux médias, puisqu'en fait notre vécu médiatique il est lié à notre socialisation, donc il est lié à nos expériences personnelles, à ce qu'on nous a appris, à nos opinions sur politique et médiatique, et que donc en fait tout ça se mélange. Et j'avais assisté à des réunions, alors pour le coup, de professeurs qui essayaient de se mettre, qui ne faisaient pas d'éducation média, mais qui demandaient au CLEMI des formations pour essayer de s'y mettre. Et l'expression collective, c'était mais moi, qu'est-ce que je peux bien avoir à leur apprendre dans un. Et a fortiori, je pense que plus l'actualité se densifie et se complique, et en plus se porte littéralement sur tous ces débats de fake news, etc. Si on voit toute la journée qu'il y a des fake news partout, que personne n'est sain et sauf, etc., finalement, les profs eux-mêmes se retrouvent à se dire « mais moi, je ne suis pas moins vulnérable, ou en tout cas pas suffisamment moins vulnérable que mes élèves, quoi. »
Effectivement, et pour compléter ce qui vient d'être dit, ce que je constate aussi, c'est un rapport parfois compliqué à l'état des savoirs, voire une distance avec l'état des savoirs, parce que on bute face à un premier problème quand on essaye d'expliquer ces bons usages, c'est que on a toujours un train de retard. On a toujours un train de retard en ce sens où lorsqu'on essaye de reposer notre propos sur des travaux récents des sciences d'information et de l'éducation et de la communication, de sciences de l'éduc, de psycho ou de sciences politiques sur les usages médiatiques climatique, on a 2 à 3 ans de retard. Il n'y a pas de travaux sur TikTok, donc lorsque on leur parle de Facebook, il y a toujours ce ricanement aussi jeune et fringant que je puisse paraître, du genre « mais ça c'est un truc de vieux, sous-entendu, vous êtes un quarantenaire, nous les jeunes on n'utilise pas ça, et dans nos lycées encore moins ». Il faut toujours leur rappeler que… merci Claire pour ce soutien. De dire, ce qu'on sait, et la difficulté de dire de ce qu'on sait de la manière dont on utilise Facebook, on peut aussi le penser sur la manière dont les autres outils sont utilisés. C'est pas parce qu'on change la marque du vélo que on change la manière de faire du vélo. Mais on a du mal à leur dire ça, de leur faire comprendre que TikTok, Facebook, WhatsApp, c'est d'abord aussi des usages de ces outils. Et ce qui est plus important, c'est de savoir comment on fait un usage. Et aussi cette difficulté à prendre de la distance avec les travaux académiques. Et c'est la citation que j'ai mis ici. C'est pas parce que j'ai joué aux jeux vidéo que je suis un déséquilibré maintenant. Ça, je l'ai entendu, mais demain ne suffisent pas à compter. Je dis ça parce que je suis un qualitativiste, donc les stats... Je déconne. Pourquoi je dis ça sur les jeux vidéo, c'est que je démarre en général la séance 1 par cette première slide qui est affichée, et j'en ai à peu près pour une heure avec chacun des groupes, en leur présentant ces trois extraits et en leur disant qu'est-ce que ça évoque chez vous. La première réaction, et c'est systématique pour la deuxième année que je le fais, là aussi c'est systématique, c'est soit une réaction sur le mode on dit les jeunes mais nous on passe plus de temps, soit c'est la question du smartphone, de l'addiction. Et donc, on embraye tout de suite, et je reviendrai dessus, sur la déprise des parents, ou alors c'est encore un titre pour faire vendre, c'est n'importe quoi. Et le but de ces trois slides est justement aussi l'occasion d'abord de déconstruire le débat autour des fake news, autour des dangers des écrans, et essayer de revenir avec eux sur les formes de permanence de ces débats. Et l'historien des médias que j'ai pu être à mes heures perdues, on est toujours frappé de voir les continuités des débats depuis les presses de masse. Les presses de masse, ça rend idiot, c'est un danger pour la jeunesse, et ça rend violent. Et donc du coup, en passant par là, on essaye, une fois qu'on a démonté cette menace info-intox, fait le test, gare au mytho, l'espèce de manipulation du cerveau, mais là je reviendrai aussi avec aussi un prisme qu'on a dans le tournant éducatif actuel, un prisme très cognitiviste. Donc on va résister à une analyse de sciences sociales des médias parce qu'on est pris dans une logique plus cognitiviste, le cerveau reptilien, la manipulation du cerveau. Et donc, du coup, oui, ça rend addict et l'affaire est close. Alors, du coup, il faut leur dire, sur les jeux vidéo, il y a exactement les mêmes débats au début des années 90. Et avant ça, c'était les mangas. Et encore avant ça, c'était la bande dessinée. Quand c'est la bande dessinée, c'est l'Église catholique et le Parti communiste qui s'opposent aux comics. Et donc, du coup, certains me ressortent presque comme un trauma générationnel, les sorties de Ségolène Royal contre Dragon Ball Z, qui passaient sur Récréa 2 et au Club Dorothée. Donc, ce qui me rassure sur le fait que tous ne sont pas aussi jeunes qu'ils prétendent l'être. Mais, mais, Mais du coup, le débat va alors se focaliser là-dessus et par rapport à leur propre pratique. C'est à chaque fois quelque chose de très épidermique, de très individuel, d'où cette citation, avec parfois même des sorties qui sont très surprenantes. Et là, alors c'est là où c'est aussi le cadre de l'enseignement, de les faire rentrer ou de leur apprendre ce que c'est une posture d'enseignant. C'est pas parce que vous venez pas que vous adorez jouer à des jeux vidéo violents que c'est nécessairement ce qu'il faut promouvoir. C'est pas votre intérêt et la promotion, c'est deux choses. Et tout en leur disant, mais là on voit bien que ça crée du trouble dans l'explication. La question de un jeu vidéo ça rend violent, c'est ce que montre la recherche. Ça marche pas. C'est pas le jeu vidéo qui rend violent, tout comme c'est pas les écrans qui sont dangereux. Là, c'est le prisme cognitiviste qui veut ça, c'est pas l'écran qui rend dangereux, c'est qu'est-ce qu'on regarde sur les écrans, c'est peut-être le nombre d'heures d'exposition aux écrans, et les écrans rendent dangereux, mais quand on est une nation apprenante, on bascule tout sur des écrans. Donc c'est toujours d'ailleurs le bon raisonnement par l'absurde que l'on peut avoir. Donc les outils n'ont pas d'effet. Et de leur rappeler ça, c'est toujours là aussi quelque chose pour lequel il y a une résistance, parce que tout le monde a des usages. Tout le monde a des usages de différents médias, et c'est la chose la mieux partagée, et on en est tous là. C'est une forme d'ethnocentrisme de classe, et donc on juge toujours les autres par rapport à ce qu'ils font de mal, mais sa pratique, elle est toujours bonne, parce qu'on sait en faire un bon usage. Ces arguments qu'on a aussi bien sur la consommation d'alcool ou la coke en milieu bourgeois. Moi, j'arrive, je sais maîtriser, je m'arrête quand je veux, mais c'est les autres qui posent problème. Et sur, pardon pour ces écarts, mais c'est la même chose sur les médias. Facebook, je m'arrête quand je veux parce que moi, j'ai un usage raisonné, je sais faire, mais il y a un danger chez les petits. Il y a un danger chez les petits, chez les ados, et c'est aussi cette difficulté à positionner l'éducation aux médias, c'est que ça parle de nous, ça parle d'eux, ça parle de leurs usages, évidemment, on est, ils sont ce public des, pas seulement des profs, mais ce sont aussi des individus avec leur position politique, leur pratique, leur desiderata, leur pratique culturelle. Certains aimant le jeu vidéo tout à fait légitimement.
Ce qui prolonge cette question, derrière ces difficultés à faire face à son propre vécu médiatique et à l'objectiver et à le remettre en contexte, du coup, ces difficultés-là qu'ont les profs d'éducation aux médias, elles vont en plus se prolonger du coup, dans le contenu du cours qui est dispensé, et ça va être encore renforcé par le fait que, alors certes, les classes médias sont institutionnalisées, encadrées par le CLEMI, qui a un socle de compétences qui est donné, etc., mais qu'il est en fait très large, que ça va être des formulations donc allier la pratique à la connaissance du système médiatique, apprendre à décoder le système médiatique. La règle semble être de s'organiser autour de ce qui est appelé les 3 C, donc compréhension du système médiatique, critique au sens d'esprit critique et créativité au sens de production d'un média. Mais une fois qu'on va une production d'un article ou voilà. Mais une fois qu'on a dit ça, en fait, pour ce qui est du contenu réel de l'éducation, c'est vraiment le prof ou la prof qui est très très libre, et donc du coup, ce vécu personnel, il va se ressentir en tenant des contenus de classe média très très différentes. Pourtant, j'en ai vu pas non plus énormément, mais rien que dans celles que j'ai vues, en fait, ce qu'on voit, c'est que ce qui influence direct, ce qui fait varier le contenu, selon moi, c'est vraiment la socialisation médiatique et politique de l'enseignant. Et ça rejoint, alors c'est un peu ce qu'on disait sur les pratiques culturelles, mais évidemment, ça rejoint aussi une autre dimension qui est la socialisation politique, c'est-à-dire l'ancrage politique de l'enseignant. L'enjeu là, c'est que je pense qu'il y a plusieurs phénomènes qui se superposent. D'une part, bon, c'est un peu un pensif, mais la socialisation politique des enseignants du secondaire est globalement ancrée à gauche. Et ça, le fait d'avoir fait la plupart de mes entretiens pendant les grèves de décembre 2019 m'a permis de le confirmer par un truc tout bête qui était que tous me donnaient rendez-vous en manif à la fin de l'entretien, donc c'est toujours un bon indice. Et plus largement, il y a ce lien historique entre la critique des médias, la connaissance critique des médias et un ancrage à gauche. Et les deux institutions, les deux organismes qui incarnent ça, c'est Acrimed et Arrêt sur Image, qui sont deux organismes fondés sur la critique et la connaissance des médias, et qui sont deux, en l'occurrence, l'une est une émission de télé et l'autre est plus un site, mais qui revendiquent un ancrage à gauche. Et du coup, en fait, ces deux phénomènes-là vont créer une sorte de confusion, ou plutôt une superposition, entre avoir une approche critique du système médiatique et développer un discours ancré à gauche. Et ça, c'est finalement presque malgré eux pour les enseignants. C'est-à-dire qu'en fait, c'est même pas forcément conscient que ce qu'ils font relève peut-être d'un discours de gauche. Puisque, en fait, par exemple, les dossiers pédagogiques du CLEMI, dont les enseignants se servent beaucoup, sont pour la plupart rédigés par des membres d'Acrimed, qui rendent service au CLEMI en y participant. De la même manière, Arrêt sur Image propose beaucoup de partenariats, de parrainages, ou quelque chose qui s'appelle la classe télé, où c'est des sixièmes qui viennent décortiquer ou des bouts d'extraits de télévisuels avec un journaliste. Et donc, en fait, de fait, par l'opportunité des partenariats, etc., ces médias de gauche ou ces organismes de gauche qui vont être les parrains et les partenaires des classes médias. Partant de cette base, donc ça c'est aussi ce que dit là le prof d'histoire sur l'extrait, c'est-à-dire cette vraie superposition entre protéger mes élèves, c'est les protéger finalement de comme il dit, de ceux qui viennent servir la soupe néolibérale. Et du coup, partant de cette base, en fait, l'EMI développé va varier selon le degré de politisation de l'enseignant, sa position aussi dans l'espace de l'EDUCNAT et plus largement sa confiance en son autorité ou sa capacité à être figure d'autorité. Et la troisième variable sur laquelle je vais revenir un peu après, c'est la représentation qui se fait de ses élèves et de leurs pratiques. Partant de ça, l'EMI développé va ressembler ou, dans sa forme la plus institutionnelle, à un cours très fondé sur les valeurs de la République, la défense de la liberté d'expression, avec un chapitre très dense sur les caricatures, le dessin de presse, et évidemment le cas de Charlie, mais qui peut donner aussi, lorsqu'il est trop important, des sortes de... Enfin, on en parlera plus tard sur la question de l'effet boomerang, mais typiquement, ces cours très focalisés sur Charlie peuvent donner des classes où, en fait, les élèves, comme ils ont une très faible connaissance du système médiatique, ils finissent l'année en pensant que, en fait... tous les médias français sont comme Charlie Hebdo. C'est-à-dire que tous les journalistes font de la caricature, que tous les journalistes ont ce ton très particulier qui est propre à Charlie Hebdo, etc. De l'autre côté du spectre, on a à l'inverse des cours qui vont être très fondés sur la critique de ce qu'on appelle la double dépendance des médias, donc c'est-à-dire la dépendance au champ politique et au champ économique, avec une insistance sur la question de l'actionnariat, de l'autocensure des journalistes, etc. C'est pas tellement un spectre qui va de cours républicain à cours de gauche, c'est plutôt, parce que les deux sont pas opposés en soi, mais c'est plutôt qu'il y a des classes qui vont insister sur les menaces extérieures au monde médiatique, les attentats, les événements, etc., et des classes qui, au contraire, vont critiquer le système médiatique en interne, c'est-à-dire regarder son organisation économique, ses liens politiques, etc. Ça ne veut pas dire non plus que dans les classes que j'ai vues, c'est tout l'un ou tout l'autre, mais qu'il y a forcément une approche, l'une ou l'autre, qui domine, tout en ayant quand même une base commune. Et là-dessus, donc il y a un autre élément qui, selon moi, fait beaucoup varier le contenu de l'éducation aux médias, c'est la socialisation médiatique ou politique, non pas tant du prof, mais aussi et surtout de l'élève. Et, ou plutôt, ce que leurs professeurs se représentent du rapport aux politiques, aux médiatiques de leurs élèves. C'est-à-dire, pour le dire vite, il semble y avoir un consensus entre les enseignants, quel que soit le milieu dans lequel ils enseignent, selon lesquels les élèves plus favorisés développent une critique qui est plus raisonnable, qui est plus articulée, qui est plus structurée, parce qu'elle est adossée à un capital culturel qui vient du milieu familial, quand les autres, les moins favorisés, vont développer une critique qui va être plus problématique, plus liée au complotisme, à une forme de doute systématique, etc. Et donc, en fait, chacun va adapter son cours à la classe sociale de leurs élèves, mais aussi de la représentation qu'ils s'en font, c'est-à-dire de ce qu'ils anticipent, de ce qu'ils pensent être le niveau de critique de leurs élèves. Un bon exemple de ça, c'est un sujet dont on parle beaucoup dans mes entretiens, c'est cette carte-là du monde diplomatique, qui s'appelle donc « Qui possède quoi ?» et qui est une carte produite par le monde diplomatique et réactualisée, qui représente graphiquement la possession du système médiatique français par les propriétaires, par des actionnaires que vous voyez au centre là, et qui est censé montrer évidemment la forte concentration par les actionnaires. Et donc cette carte là, elle représente des connaissances factuelles et en même temps évidemment elle invite à une réflexion critique sur l'organisation économique du système médiatique. D'ailleurs, elle est créée par Le Monde Diplomatique, qui est un journal qui est ancré très à gauche, etc. Et donc, c'est un outil qui pose un peu problème, enfin, qui pose un peu question aux enseignants, parce qu'elle est très utile factuellement, elle est effectivement un support pédagogique, et en même temps, elle peut aussi générer des discours de critique un peu au-delà de ce qu'ils espèrent, créer. Et donc, par exemple, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a des classes. Dans les lycées les plus privilégiés, dans les lycées les plus favorisés, le poster est affiché dans la classe, comme dans la classe qui correspond à la classe média, comme certains profs peuvent décorer leur classe, et elle est affichée, et les élèves la voient toute la journée et passent devant. Elle est aussi commentée en classe, mais elle est là tout le temps. Et dans un autre lycée avec un public plus mixte, la professeure documentaliste me dit « Ah non, celle-là, je ne peux pas l'afficher, on peut l'étudier ». Mais elle doit toujours être accompagnée d'une explication. Je ne peux pas les laisser seules face à ce poster. Ça leur donnerait des fausses idées. C'est-à-dire un élève seul face à cette image tendrait à développer une critique trop virulente et donc peut-être à rejeter le système médiatique en bloc, quoi. Et quand j'en parle aux profs doc des collèges REP+, dans le nord de Paris, elles me disent unanimement, jamais de ma vie, je pourrais sortir cette carte en classe. Alors, c'est aussi lié au fait, effectivement, qu'elles ont des collèges, et donc qu'elles peuvent aller moins loin qu'en lycée, mais elles disent aussi que c'est pas uniquement lié à l'âge de leurs élèves, mais aussi que c'est un niveau de critique qui est trop approfondi. Ça renvoie à une autre observation que je fais dans les entretiens, qui est que on trouve une confusion entre la bonne socialisation de l'élève et la réussite scolaire en EMI. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui a été aussi observé en éducation morale et civique. Il y a un travail sur une classe de EMC qu'on vous a mis en bibliographie qui le démontre assez bien, qui est qu'un bon élève d'éducation aux médias, puisque c'est une classe avec des notes, etc., une évaluation, un bon élève d'éducation aux médias, c'est un élève qui lit Le Canard Enchaîné, qui lit Mediapart, qui regarde Arte et LCP, mais certainement pas Hanouna et autres, qui maîtrise l'actualité, qui sait donner son avis sur tout un tas de sujets différents, mais toujours avec modération et en être capable d'un... c'est ce qui construit un bon élève au sens scolaire. Et en même temps, évidemment que cela, comme dans le reste de l'éducation nationale, souvent cette réussite scolaire, elle est adossée à une socialisation... à une socialisation très précise et pour le coup qui est plutôt caractéristique des classes favorisées.
C'est aussi ce que je vois à mon niveau là de ce public adulte et c'est ce que on retrouve et je retrouve ce que peut dire Isée qui à mon avis pose un vrai problème pédagogique sur lequel il faut revenir, c'est-à-dire comment articuler esprit critique et critique de l'esprit ou critique du système, les deux faisant faisant très bon ménage dans la troisième séance et c'est l'exemple que vous avez ici où je où j'essaye de décrypter l'actualité. Alors ce que je fais, c'est que j'ai construit un PowerPoint ici. C'était un cours en février de 2020 où je prenais et je passais en revue des unes là de la presse nationale, mais sur la slide d'après vous avez la presse régionale, la presse magazine. Prenez les liens vers les flash infos du matin, les flash infos de midi et le JT de 20h. Et c'était un peu l'exercice regardons 24 heures de la vie des médias et essayons de comprendre comment ça fonctionne. Et là, à ma grande surprise, c'est que quand j'enseignais la sociologie du journalisme en école de journalisme, je passe pour un dangereux gauchiste, voire islamo-gauchiste, rebelle, critique, crachant dans la soupe et que n'a-t-on rien dit, mal dit de livres de Pierre Bourdieu sur la télévision, y compris la réaction de Daniel Schneiderman suite à ce livre du journalisme après Bourdieu où il part de combien ça a été complexé, etc. etc. Mais quand je suis face à cette classe-là, et c'est sans doute la première fois que je suis confronté à cette difficulté, j'ai fait aussi des cours où je présentais la carte du monde diplo en L1 de droit. Là, c'était moins sur cette critique-là, mais c'était toujours en lien avec leur socialisation politique. Et on peut aussi comprendre d'où vient la critique quand ça fait deux campagnes électorales où on nous explique que tout ça c'est le système des médias, voire les merdias, les journalopes et autres, qu'on sortait d'une longue période de gilets jaunes qu'on mis en place et qu'on mis la critique des médias. Mais dès qu'on arrive en classe à critiquer les médias, on tombe sur une vision du système. Et donc il faut à chaque fois, finalement, je me retrouve quasiment dans la posture de être le défenseur du système quand, dans ma sociologie, je passe pour celui qui crache dans la soupe. Et c'est aussi ça le paradoxe de l'EMI, et on reviendra dessus avec Izé, c'est que lorsque on fait cet exercice, leur premier réflexe, et un, ils ne connaissent pas nécessairement les journaux, et puis bon, c'est pas un hasard, la sociologie des pratiques médiatique nous montre combien il y a une répartition inégale de la consommation médiatique. Parfois, ils ont même du mal à identifier la couleur politique d'un journal. Je me souviens d'une situation où un groupe d'étudiants en histoire géo s'est mis quasiment à bouder parce que j'avais dit que Le Point était un journal de droite. Mais justement, ce qui était intéressant, c'était en comparant la une de Valeurs Actuelles, du Point, de Télérama, du Nouvel Obs et de L'Express, qui était une des slides qui suit celle-là, on voyait bien aussi comment les journaux faisaient des arbitrages, aussi bien des arbitrages par rapport au public qu'on cherche à atteindre, public qu'on peut atteindre économiquement selon un sociostyle particulier, ou journaux qu'on peut atteindre également politiquement en fonction d'une teinte politique. C'est-à-dire qu'en gros, il suffisait de faire un peu de sociologie du journalisme, et il fallait faire cette sociologie du journalisme, mais elle va pas de soi, et elle fait l'objet de résistance à partir, là encore, de leur pratique médiatique, de cette idée que c'est les médias du système, que les systèmes appartiennent tous aux grands capitalistes, etc., etc. Alors, je ne sais pas si je réponds aussi par là à la question posée par Martin, qui est aussi du coup de devoir expliquer le travail journalistique. Et au final, la séance qui porte sur l'analyse des unes devient au fur et à mesure une séance beaucoup plus, alors à l'arrache, parce que sur 3 heures, on ne peut pas rentrer complètement dans le détail, sur les logiques d'arbitrage journalistique, comment on fait des choix, qu'est-ce que c'est la dépendance, qu'est-ce que c'est l'indépendance, qu'est-ce que c'est le pouvoir des médias, est-ce qu'il y a pouvoir, si oui, lequel, comment il est limité, etc., etc. Mais on peut tout de suite et toujours tomber sur cette idée que c'est le système. Et là, on est un peu bloqué. Mais ça suppose encore, du point de vue de l'éducation aux médias, de continuer ce travail. Du coup, c'est bien cette question du paradoxe qu'on va essayer de voir cette fois-ci du côté des modalités pédagogiques. Potentiel dépassement de ce paradoxe.
Au vu de ce qu'on a dit jusqu'à présent sur les difficultés et les obstacles que peuvent rencontrer les enseignants pour enseigner l'éducation aux médias, une première piste, ce serait de dire dans ce cas-là, renforçons l'institutionnalisation de l'éducation aux médias. C'est-à-dire fixons des programmes, des contenus, des manuels, tout ce qui pourrait figer institutionnellement la discipline. Ça permettrait d'alléger, en tout cas sur le papier, le sentiment d'illégitimité qu'ont les professeurs à enseigner cette matière. Et ça évacuerait une partie de l'enjeu de la dimension personnelle qui y est liée. Pour autant, quand j'évoque cette piste avec mes enquêtés, elle suscite, pour dire le moins, vraiment très peu d'enthousiasme. Déjà parce qu'elle impliquerait de faire dominer très largement une approche très institutionnelle de l'EMI au détriment des autres et notamment au détriment peut-être d'une approche plus critique. Et surtout, comme le disent les profs eux-mêmes, vu la différence des vécus médiatiques entre ma classe et celle des autres, il sera toujours impossible de s'accorder sur un programme commun. C'est-à-dire qu'en gros, ils le disent aussi explicitement, il y a des classes où ils étudient la une du Monde versus la une de Libé, les chartes graphiques et les choix de hiérarchisation d'information. Moi, dans ma classe, on se demande si Beyoncé est une Illuminati et comment est-ce qu'on pourrait un jour trouver un programme qui permettrait d'allier les deux, c'est impossible, etc. Donc du coup, eux, ce qu'ils vont défendre, c'est au contraire plutôt l'idée inverse, c'est-à-dire, c'est une matière particulière qui a des particularités, qui est liée à notre vécu personnel, eh bien, assumons notre vécu médiatique, reconnaissons qu'on a des pratiques et des opinions médiatiques différentes. Et pour l'enseignant d'assumer son vécu médiatique, ça impliquerait aussi, et c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, d'accepter le vécu médiatique de ses élèves, d'accepter les pratiques médiatiques de ses élèves en tant que telles, sans les fantasmer, sans projeter d'angoisse particulière dessus, et ça, le débat public n'aide pas forcément. Et c'est une question que je pose beaucoup à mes enquêtés, c'est-à-dire est-ce que vous partez des pratiques de vos élèves et vous essayez de les amener à voir ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a derrière TikTok, qu'est-ce qu'il y a derrière Hanouna, qu'est-ce qu'il y a derrière les anges, ou est-ce que vous essayez explicitement de les amener à changer leur pratique? Et souvent, leur réponse, c'est de dire « Moi, je serais content si mes élèves pouvaient un peu se détourner des anges et se tourner un peu vers le canard. Moi, je serais content s'ils passaient un peu d'Hanouna au monde diplôme. » Et en fait, c'est justement quand ils expriment ça que l'éducation en médias change un peu de rôle et de statut, puisque ça devient plus une éducation pour donner des outils critiques de décodage de nos pratiques médiatiques, ça devient une opportunité pour affirmer une norme, en l'occurrence ce que les profs considèrent comme étant la bonne information, le bon comportement médiatique, avec une sorte de triptyque rêvé, canard enchaîné, Mediapart, monde diplo. Et on peut en ajouter 2-3 autres, mais la liste est quand même assez courte, quoi. Une autre possibilité pour répondre un peu à la question de Martin, là, j'ai surtout parlé de l'enseignant d'EMI face à sa classe, mais une autre dimension importante de ces classes médias, c'est les intervenants extérieurs. Les interventions extérieures, c'est très souvent des journalistes, et c'est cohérent puisque là, pour le coup, les enseignants n'ont pas de doute sur leur légitimité, leur capacité à faire figure d'autorité, comme on disait tout à l'heure, sur ces questions-là. Dans la pratique, en fait, les partenariats et les interventions sont assez limités et dépendent pour beaucoup du réseau du prof, d'être en mesure d'inviter des journalistes réputés dans leur classe. Pour vous donner un exemple, le lycée le plus prestigieux que j'observe, ils ont 3 parrains par année, un par trimestre. Leurs 3 parrains sont respectivement Jean-Michel Thénard du Canard Enchaîné, Fabrice Arfi de Mediapart et le journaliste de 28 minutes d'Arte dont le nom m'échappe. Sonia De Villers de France Inter. Donc on est quand même sur vraiment, on fait difficilement plus prestigieux en termes de choix de parrains. Quoi. Dans les collèges où ils n'ont pas ces opportunités-là, souvent ils ont beaucoup plus de mal à faire venir des profs, des journalistes en classe et vont plutôt se rabattre sur des assos locales, sur des assos qui ne sont pas spécifiquement des journalistes. Et d'ailleurs, elles s'en plaignent un peu aussi en disant, et ça c'est encore un autre sujet que peut-être on peut garder pour plus tard, mais depuis qu'il y a, en fait, pour parler concrètement, depuis qu'il y a des subventions dans l'éducation médias, depuis qu'il y a de l'argent, il y a aussi tout un tas d'associations qui s'y sont mises pour bénéficier de cette manne et on ne sait pas tellement faire le tri dans tout ce qu'on nous propose entre dans la qualité de l'intervention qui est proposée. On ne sait pas tellement, on se méfie un peu de toutes ces opportunités qui nous sont offertes parce que c'est sûr que si on invite Fabrice Arfi, on est à peu près garanti que l'intervention sera à la hauteur de ce qu'on imagine. Mais quand c'est des assos qu'on ne connaît pas trop, des petites assos comme ça qu'on un peu plus confidentielles, il y a un peu plus de réticence à organiser des interventions en classe, etc.
Oui, moi, c'était pour compléter et pour rebondir sur ce que disait Isé, et tout en anticipant une réponse à Martin. Une autre manière de répondre sur la place des journalistes, c'est d'ailleurs des extraits que j'utilise en cours, c'était un mémoire que j'avais encadré d'une étudiante de M2 qui actuellement est d'ailleurs passée, est devenue journaliste et qui avait suivi les classes interclasses en lycée et collège de REP+. Et en soi, ce qui ressortait, c'est que ça changeait pas énormément et que ceux qui avaient un rapport critique aux médias, en classe média, lorsque débarquait France Inter, restaient très critiques parce que ça restait France Inter et que ça restait le média du système et que finalement, il n'y avait pas de raison que ça change. Mais surtout, ce qui est peut-être une première étape à faire pour dépasser le paradoxe, et c'est ce que disait Isé sur la formation aux médias, la formation par les médias, et est-ce que l'éducation média, c'est l'éducation à une orthopraxie médiatique où le monde serait le journal le plus dans le système qu'on tolérerait, ou à l'inverse, on peut imaginer peut-être des classes médias dans un lycée privé du 16e arrondissement où ce serait le Figaro et je ne sais pas si ça existe d'ailleurs, mais il faudrait voir ce que c'est ces classes médias dans d'autres espaces qu'on connaît sans doute beaucoup moins. Mais il faut, et c'est toujours un moment après plusieurs minutes de discussion, de comprendre ce que c'est la pratique médiatique des adolescents, d'insister sur pourquoi ils utilisent TikTok, qu'est-ce qu'ils font. Par exemple, il y a un ensemble de données qui aboutissent à un résultat paradoxal, c'est que les premières émissions regardées devant toutes, regardées par les ados, c'est le JT de TF1. C'est dans le classement, c'est en trio de tête sur toutes les classes d'âge. Alors ça, ça fait toujours... soit ça vient conforter ceux qui pensent que les ados regardent de la merde, pour citer un des étudiants qui était compliqué à gérer sur l'ensemble de la formation, mais qui avait toujours des jugements fins sur ce registre-là, mais soit ça venait conforter ceux qui pensaient que de toute façon les gamins sont un peu crétins et qui regardent de la merde, donc le JT de TF1 ça va de pair avec les Marseillais et Hanouna, soit ils en étaient très étonnés et il s'agissait d'abord de leur dire, mais oui, si on veut comprendre les pratiques médiatiques, y compris si on veut comprendre comment circulent des énoncés, si on veut démonter, par exemple, des rumeurs, des fakes, etc., si on veut comprendre, si on veut lutter contre le cyberharcèlement sur ce qui circule, il faut savoir les usages qui en font. Et la pratique médiatique, c'est une pratique d'abord collective, et la réception, c'est une réception collective. Et donc, du coup, la difficulté, c'est de les former à la pratique médiatique et de sortir des vieilles théories des médias. Les vieilles théories des médias, c'est depuis presque 100 ans, où on est passé de la manipulation des foules à un effet direct et aux effets progressivement indirects. Et on arrive enfin aux cultural studies pour comprendre les usages. Alors c'est là où un des exemples assez vieux, mais toujours parlant, mais ça nous rajeunira, c'est l'étude de Dominique Pasquier sur Hélène et les garçons. Alors c'est toujours le moment où j'en ai 4 ou 5 qui tombent de leur chaise en disant ça y est, on sort les vieilleries, parce que j'aime bien sortir les vieilleries, je sors aussi Marc Bloch sur les rumeurs, mais pour ensuite essayer de voir qu'est-ce que c'est une pratique collective, et on en vient ensuite aux réseaux socio-numériques, mais précisément pour dire il y a un continuum. Ce qu'on voit dans les études, c'est que ce dont on parle dans la cour se poursuit désormais sur TikTok et Facebook, et que, ou sur WhatsApp ou n'importe quoi, et que le premier usage que l'on fait de ces réseaux sociaux numériques, c'est pour entretenir la conversation avec les autres, c'est pas pour aller s'informer. Et donc, plutôt que de chercher la théorie des effets, la théorie des manipulations, c'est pas le contenu qui manipule, c'est pas le contenu seul qui a un effet, c'est la réception de son contenu par les groupes, par des groupes de pairs au sein des classes. C'est au sein du micro-groupe des 5 garçons qui écoutent du rap dans la même classe, des 6 filles qui sont fans de Hanouna, etc., etc. Mais il faut réussir à comprendre ça pour sortir de la lecture hyper individuelle qui est renforcée encore une fois par les travaux de les travaux neuroscientifiques. On ne parle que de l'effet sur le cerveau. Alors peut-être que ça bouge le cerveau reptilien, mais ça ne nous dit pas comment c'est traduit, comment ça circule, qu'est-ce qui fait qu'on croit en certaines choses. Et lorsque on a des entretiens avec des ados sur leur pratique, mais c'est valable aussi pour les adultes, c'est j'ai entendu que mon grand frère m'a dit que j'ai vu à la télé, et c'est ce mélange des différentes choses qui vont construire justement une information, et c'est sans doute par là que l'on peut mieux déconstruire cette information. Ça permet aussi de déconstruire le discours moral sur simplement l'abandon des parents. Alors sans doute que les parents ont un rôle à jouer, et j'en suis certain, mais tout ne relève pas non plus des parents qui laissent les télés branchées tout le temps, parce que précisément, là aussi, ce que nous montrent les travaux, c'est que c'est en général le père de famille ou le grand frère qui tient la télécommande, et là, c'est ce que peut nous montrer David Morlaix ou Clémentine Bergeau sur les usages des médias en classe populaire, dans les classes populaires, et c'est surtout pourquoi la télé est tout le temps allumée, et comprendre ce qu'on fait. Alors, est-ce que c'est important, peut-être qu'ils ne regardent pas BFM, sans doute on le souhaiterait, mais c'est déjà peut-être important qu'ils regardent BFM pour s'informer plutôt de regarder d'autres choses non labellisées comme médias. Et c'est bien là tout ce paradoxe, c'est que quand on fait de l'éducation aux médias, on en vient à défendre des journaux que l'on conchit par ailleurs politiquement. Mais il faut réussir à tenir la critique sur les deux. Critiquer des contenus sans jeter le bébé avec l'eau de BFM, et qui est un des éléments importants. Ce qui nous amène progressivement, moi qui craignais qu'on ne tienne pas une heure, finalement on est toujours atteint du paradigme castriste d'un discours éditeur, à la conclusion. Je cède le micro à Isée.
Ouais, assez rapidement. Bah, la conclusion, c'était juste. Je vais faire très rapidement parce que comme ça on pourra passer peut-être à des questions, etc. En conclusion, je voulais revenir sur une sorte de phénomène qui est appelé par mes enquêtés l'effet boomerang de la critique et qui, je pense, est important ici à prendre en compte parce que ça pose aussi la question de la limite de la critique qu'on peut et aussi de la limite de la critique qu'on peut apprendre à ses élèves et aussi surtout de finalement ce qu'on appelle esprit critique, c'est-à-dire que je pense qu'on n'a jamais autant dit le mot esprit critique et appelé à l'esprit critique des élèves, mais aussi de tout le monde en général, à peu près tout le temps, partout. Et en même temps, derrière ce terme d'esprit critique, on peut mettre des choses très différentes et mettre à la fois une bonne et une mauvaise critique, une critique modérée, une critique radicale. Et en fait, c'est ce flou autour de qu'est-ce qu'on appelle la critique qui... même certains enseignants ont constaté qu'en fait, sur chaque... alors, pas comme phénomène systématique, mais quand même assez redondant, on observe en fait un effet de l'éducation en médias qui génère un rejet total du système médiatique chez les étudiants, chez les élèves. Donc, ou un relativisme total, c'est-à-dire des élèves qui vont dire « bon bah d'accord, mais du coup il n'y a pas de vérité, en fait c'est bon, j'ai bien compris après un an de classe média », voire un rejet total, et c'est un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la carte du monde diplôme, c'est-à-dire des élèves qui en fait, en la lisant trop vite, rejettent tout en bloc. Le témoignage de l'enquêté concernant l'effet boomerang, c'était de dire mais là-dessus, ça met en avant quelque chose qui est très intéressant, ce que j'appelle l'effet pervers de l'éducation aux médias. C'est-à-dire que l'éducation aux médias, extrêmement poussée, aboutie, amène à un rejet complet des médias. Et je dis ça, vous l'avez déjà vu sur des élèves ? Oui, oui, bien sûr, on fait l'éducation aux médias, on montre, plutôt on fait en sorte que les élèves comprennent le système médiatique, et à la fin, les élèves disent « bon, ben les médias, ils sont tous pourris, je fais confiance à aucun média ». C'est un peu l'équivalent de ce qu'on trouve en politique. Les politiciens sont tous pourris, c'est tous les mêmes, donc c'est terminé, je ne vais pas voter, etc. On peut avoir cet effet pervers. Et en voulant développer l'esprit critique, on a un effet pervers qui est vraiment à prendre en compte, qui est assez méconnu, pas forcément conscientisé, qui est courant sans être systématique, mais qui est courant. Et je pense que cet effet... je pense que cet effet boomerang, comme ils l'appellent, ça revient à, en fait, effectivement, ce flou derrière ce terme d'esprit critique qui est devenu déjà un terme avec un usage politique et aussi avec une sorte de mot valise derrière laquelle on met en fait des réalités très très différentes. Voilà.
Bah, merci beaucoup pour la présentation riche et interactive aussi. le binôme fonctionnait bien.